Des fake news aux secrets de famille, en passant par les demi-vérités et les arnaques en tout genre, le mensonge est bel et bien présent partout ou presque. Et pourtant, nous disons que nous aimons la vérité. Alors aujourd'hui, dans Il est écrit, nous allons réfléchir à ce paradoxe en relisant la 9e parole du Décalogue, le 9e des 10 commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Nous voilà arrivés déjà à la 9e parole du Décalogue. Et aujourd'hui, je vais retrouver avec plaisir mes amis, l'équipe au complet aujourd'hui. Bonjour Patrick.
Bonjour Rémi.
Merci d'avoir fait le déplacement pour être avec nous. Bonjour Ngoy.
Bonjour Rémi.
Et bonjour France.
Bonjour Rémi.
Nous, on se voit un peu plus souvent.
Oui.
Alors aujourd'hui, on est réunis donc pour parler de cette 9e avant-dernière parole du Décalogue. Et je vais simplement la relire, mais la relire en entier. Dans l'introduction, j'ai mentionné que c'est une parole qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages », mais en fait, il y a un petit peu plus que ça. Je vais donc relire dans le livre de l'Exode, le chapitre 20, le verset 16. « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Voilà donc la 9e parole au complet. Alors, ce faux témoignage, Ngoy, dans le contexte où Dieu a donné cette parole à Moïse et au peuple d'Israël, ce faux témoignage, est-ce que c'est d'abord un faux témoignage dans un cadre de justice judiciaire?
Dans un premier temps, la parole s'inscrit dans le cadre d'un tribunal. Et il faut rappeler qu'à l'époque, la justice se rend par les sages, les vieux. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a subi un préjudice de la part de son voisin, il va à la porte d'entrée donc du camp, et là, il va exposer la situation. Et les sages qui font fonction des juges doivent faire intervenir plusieurs personnes qui sont des témoins, et ces témoins-là doivent donner des propos, ils doivent proférer des propos qui sont conformes à la vérité. Donc ici, lorsqu'il dit « tu ne porteras pas de faux témoignages », on s'adresse en premier à ces témoins-là pour qu'ils ne disent pas des choses qui sont fausses. Ils doivent déclarer ce qui est vrai. Ça, c'est dans Exode chapitre 20. Dans Deutéronome chapitre 5, il est même ajouté « tu ne porteras pas de paroles vaines ». On y reviendra tout à l'heure pour spécifier le sens de ces paroles vaines ou de paroles fausses.
Encore aujourd'hui, mentir en général, c'est pas bien vu, même si on va parler tout à l'heure du fait que c'est répandu et que nous-mêmes, on peut pas dire qu'on est exempt de mensonges, mais mentir, c'est pas bien vu, mais mentir dans le cadre de la justice, c'est considéré comme particulièrement grave. À l'époque, c'était déjà aussi ce commandement nous disait en quelque sorte, on va le voir, dis la vérité, ne mens pas, mais sois particulièrement attentif à ce que tu dis quand tu es dans un cadre judiciaire et que quelqu'un risque d'être finalement atteint par ton mensonge ou ta non-vérité.
Oui, en fait, c'est pour cela que le texte dit « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain », le prochain étant celui qui est notre voisin ou la personne de qui nous parlons. C'est-à-dire que la parole insiste ici pour que nos propos ou notre témoignage que nous rendons de quelqu'un ne puisse pas porter préjudice. Et ces préjudices, ça peut être avec des conséquences graves qui vont porter atteinte à long terme, peut-être à moyen terme, aussi à court terme, mais ça peut détruire la vie de quelqu'un. Donc, c'est dans l'objectif de protéger la cohésion sociale, de sorte que mes propos sur quelqu'un d'autre soient conformes et surtout que ça soit constructif et non pas des paroles qui détruisent la personne ou sa réputation.
Alors, on vient de poser en quelque sorte le cadre de notre émission d'aujourd'hui. On va parler du mensonge. Et on va parler du contre ton prochain, c'est-à-dire nuire au prochain. La première question que j'aimerais vous poser, c'est d'où vient le mensonge et pourquoi est-ce qu'on ment? Parce que c'est assez surprenant, il semble qu'on n'ait pas besoin de nous apprendre à mentir.
C'est naturel.
J'ai eu des enfants, je pense pas leur avoir appris à mentir, mais très tôt, mes filles ont su comment ne pas dire directement la vérité. D'où ça vient, Patrick, le mensonge, et pourquoi est-ce qu'on ment comme ça?
Dans une perspective judéo-chrétienne, pour ceux qui adhèrent à la croyance que la Bible est le texte inspiré par Dieu, l'information qui nous est donnée dans la Bible, c'est que le mensonge vient de l'ennemi juré de Christ, donc de Satan. La Bible s'y réfère par un texte que j'imagine vous allez partager sous peu. Et Jésus lui-même nous dit que Satan, c'est le père du mensonge.
Absolument, absolument. On peut le lire, Patrick, avant que tu ailles plus loin. On va lire ce passage, c'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Je lis le verset 44. Là, Jésus s'adresse à des chefs religieux juifs. Il n'est pas avec le dos de la cuillère, il est assez direct. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge.
Donc, on est capable de statuer d'un point de vue biblique l'origine du mensonge. C'est une chose. L'autre problématique qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, c'est comment le mensonge s'enracine en nous et pourquoi est-ce qu'on est porté vers le mensonge. J'ai moi-même des enfants et je sais qu'une des dynamiques qui pousse l'enfant au mensonge, c'est entre autres la peur d'une conséquence quelconque, sachant que la conscience les accuse, sachant la différence entre le bien et le mal, d'avoir pris une mauvaise décision et d'avoir peur de ce qui va se produire. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ment. Il y a des récits dans la Bible qui nous parlent de paroles mensongères et de situations dans lesquelles le mensonge a été utilisé pour une raison ou une autre. Mais fondamentalement, le mensonge n'est pas quelque chose d'un point de vue biblique qui vient de Dieu et que Dieu nous encourage à pratiquer. Au contraire, c'est proscrit d'une certaine façon pour des raisons qui, je pense, sont bien évidentes au-delà de notre compréhension théologique de la Bible.
Alors, justement, est-ce qu'on peut expliquer, ça pourrait paraître une évidence, mais ça ne l'est peut-être pas, expliquer pourquoi le mensonge est finalement quelque chose qui va être néfaste, déjà pour nous-mêmes, pour nos relations, et puis en quoi est-ce que la vérité, même si elle n'est pas toujours bonne à dire, selon le proverbe, elle est quand même la voie qui va nous permettre d'être bien avec nous-mêmes, bien avec les autres, France.
Bien, en fait, moi, je pense que, pour faire suite un petit peu à ce qu'il disait Patrick, derrière le mensonge, il y a l'orgueil. Hein? L'orgueil, on ne veut pas être, on ne veut pas s'abaisser, on ne veut pas reconnaître qu'on a mal agi et tout ça. Ça cause préjudice à la personne, ça cause préjudice aux gens autour de nous. J'aimerais amener l'exemple d'une personne que j'ai connue, moi, qui avait des problèmes de jeu compulsif. Et cette personne-là... c'est sûr qu'une journée, elle racontait un mensonge pour cacher ce qu'elle avait fait. Et le lendemain, elle devait raconter un mensonge qui allait en lien avec le premier. Donc, il fallait qu'elle se rappelle de son premier mensonge.
C'est comme un tissu.
C'est une toile qui se tisse. Et au bout du compte, la personne vit énormément de pression et de stress. Et elle souffre de ça. Et la personne que j'ai connue un jour a finalement reconnu son problème et elle s'est sentie libérée enfin parce qu'elle était prise vraiment dans tous ses mensonges et elle en souffrait énormément. Donc, ça lui a fait du bien de finalement raconter la vérité et de s'ouvrir comme ça.
Donc, tu veux dire que déjà, pour la personne elle-même qui a l'habitude de mentir, le fait de prendre conscience et de cesser de mentir, d'accepter de dire la vérité, ça va être une libération intérieure.
Absolument, c'est une libération, oui.
Sans compter, on verra aussi l'aspect relationnel, ce que ça change dans la relation. À ce sujet-là, Patrick, en préparant l'émission, tu disais quelque chose d'intéressant. Il y a une étude qui a été faite et qui montre que celui qui ment se fait du mal à lui-même.
Oui, en fait, c'est une étude qui a été préparée par une psychologue chercheuse, docteur Anita Kelly, à l'Université Notre Dame aux États-Unis. Et dans cette étude, on a pris une centaine de participants et on a évalué le nombre de mensonges que ces participants disent de façon hebdomadaire sur une période de temps. Et la moyenne est environ 11 mensonges par semaine, soit ce qu'on appelle des mensonges pieux ou des mensonges un peu plus importants. Et on a aussi divisé ce groupe et on a demandé à une partie de ce groupe de s'abstenir de tout mensonge. Et on vérifiait à l'aide de polygraphes, justement, ce qui était véridique et ce qui ne l'était pas dans les propos au niveau de cette étude. L'aspect qui est intéressant dans cette étude-là, c'est de voir le lien qu'on était capable de faire entre le fait d'avoir une parole honnête, intègre, transparente et authentique et les bienfaits associés à la santé. Donc, le groupe qui avait choisi sur une période X de temps d'avoir une parole qui était honnête, donc de s'abstenir de tout mensonge sous toutes ses formes, avait une santé physique qui était améliorée. Et on a mesuré au niveau des maux de gorge, maux de tête, tensions musculaires. Et ceux qui s'adonnaient régulièrement au mensonge avaient des problématiques liées à leur santé physique, donc augmentation de tensions musculaires, de maux de tête et autres. Alors, c'est intéressant de noter qu'on a étudié cet aspect-là et on est capable, à l'extérieur du récit biblique, de dire, bien, finalement, d'être honnête, de ne pas porter préjudice à notre prochain, de ne pas mentir, c'est bon pour notre santé.
C'est comme si on avait été programmé pour être vrai, pour être authentique, pour être honnête.
Exact. Et ça a un impact sur la santé physique, la santé émotionnelle, la santé, évidemment, mentale, mais aussi, comme on va en discuter prochainement, toute la question de la santé sociale.
C'est ça. Alors, on en vient à la dimension relationnelle. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Ngoy, dans le mensonge, non seulement je me fais du mal à moi-même, comme Patrick et France viennent de le rappeler, mais aussi je porte atteinte quelque part à la relation avec l'autre.
Oui, d'ailleurs, il y a une pensée juive qui dit que lorsqu'il y a faux témoignage, il y a préjudice sur trois personnes. Il y a d'abord celui qui ment, parce que celui qui ment donne une image qui n'est pas vraie de lui-même. Il y a la personne de qui l'on parle qui n'est pas là, et il y a aussi celui qui écoute. En fait, il y a trois personnes qui tombent dans le faux parce qu'ils ne sont pas en train de vivre quelque chose de vrai. Et il y a aussi un élément qui fait que les relations sont détruites parce qu'il y a destruction de la personne de qui on rend un faux témoignage. Par exemple, pour citer la Bible, le cas de Potiphar, la femme de Potiphar, qui va aller dire que Joseph a voulu coucher avec elle alors que ce n'était pas vrai. Joseph s'est retrouvé en prison, donc c'est un préjudice direct. Et cela, ça détruit. Il y a aussi le cas de la vigne de Naboth qui...
Ça, c'est avec le prophète Élie.
Avec le roi Akab et le prophète Élie. Donc, le roi Akab veut avoir la vigne de Naboth, mais il n'y arrive pas. Il se plaint chez sa femme Jézabel et la femme Jézabel invente un mensonge pour que Naboth soit tué et que lui s'approprie du jardin. Donc, vous voyez que ça causait un dégât social, tout simplement par cupidité. Aussi par orgueil dans le cas de la femme de Potiphar, parce qu'on veut s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas, et automatiquement, il y a une destruction de la vie sociale de plusieurs personnes.
Alors, on voit le genre de conséquences et on voit aussi les raisons là, à travers ces exemples pour lesquels on peut mentir. Ça peut être effectivement pour son intérêt personnel, ça peut être par peur, comme on disait tout à l'heure, ça peut être pour se faire bien voir. Il y a toutes sortes de raisons. France, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, en fait, j'aimerais faire vraiment un lien précis avec l'aspect de la confiance. Parce que quand on ment régulièrement, que ce soit des gros mensonges ou des petits mensonges, on brise définitivement la relation. On parlait tantôt de nos enfants, que ce soit avec nos enfants, notre conjoint, nos collègues de travail. Quand on réalise que la personne nous ment, quand même c'est des petits mensonges, tu réalises que cette personne-là n'est pas vraie. Donc, même si elle te raconte quoi que ce soit, bien, à un moment donné, tu doutes toujours. Donc,
il n'y a pas cette relation de confiance.
C'est ça. Ça brise vraiment la relation entre les personnes.
C'est dans ce sens-là, probablement, que la plupart du temps, on peut dire que le mensonge est toujours contre le prochain, parce que c'est ce que dit le texte. Hein? Pas de faux témoignage contre le prochain. On pourrait dire, dans certains cas, je mens, mais...
Ça ne fait pas de mal à personne.
Sauf que ça brise quand même cette relation de confiance.
Absolument.
Puis parfois, ça va plus loin. Parfois, le contre le prochain, c'est vraiment que ma parole peut détruire l'autre. On l'a mentionné tout à l'heure. Et Patrick, je crois que tu voulais réagir là-dessus.
En fait, je pense que vous vous souvenez tous de cet épisode qui a fait les manchettes qui concerne cette dame canadienne qui marchait dans Central Park à New York et un homme noir lui a demandé de mettre son chien en laisse. Et puis, finalement, elle a fait appel aux forces de l'ordre disant qu'elle n'était pas en sécurité avec cet homme dans le parc, mais lui avait filmé à l'aide de son mobile toute la scène. Et au final, on s'est rendu compte que cette dame avait monté une histoire en épingle et avait porté faux témoignage contre cet homme. Et on se rend compte à quel point une parole qui est fausse contre son prochain peut avoir des préjudices importants sur la réputation d'une personne. Alors, il y a même un texte biblique qui témoigne, en fait, à quel point la parole est puissante.
Il y en a plusieurs dans l'Épître de Jacques, dans les Proverbes. Je crois que tu voulais lire...
Oui, en fait, il y a un élément que parfois nous oublions dans le témoignage contre le prochain. Parce qu'il faut noter que la parole, c'est un don que Dieu nous attribue, parce que la parole, elle vient de Dieu. Vous allez voir dans le livre de Genèse, quand Dieu crée, il utilise la parole. Et il donne à l'homme le pouvoir de nommer les animaux. Il lui donne la parole. Donc, la parole, elle peut être créatrice, innovatrice, mais elle peut être aussi destructrice. Dans Proverbes, le chapitre 18, le verset 21.
Proverbes, chapitre 18.
Et le verset 21, j'ai lu.
C'est 21.
Oui, je lis dans Louis II, il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » En d'autres termes, notre parole a pouvoir de tuer ou de donner vie. Mais en même temps, c'est très difficile pour nous, les êtres humains, d'avoir cette capacité d'être authentique et vrai. Et j'allais presque dire que, parce que nous faisons face à toutes sortes de conflits en nous, l'intérêt, l'orgueil, si nous n'avons pas une aide divine de celui qui nous a donné la parole, nous ne serons pas capables d'être vrais.
Parce que parfois, N'Goy, on peut même dire quelque chose qui est vrai, mais être en train de transgresser la neuvième parole. Si cette parole, je mets « vrai » entre guillemets, est une parole qui porte atteinte.
Oui, parce que je peux utiliser une information qui est vraie, qui est fondée et pour laquelle j'ai les preuves, mais seulement le fait que je puisse le porter à autrui dans l'objectif de nuire la personne dont je parle, je suis dans la transgression de la neuvième parole, là, parce que la neuvième parole nous donne, j'allais dire, je n'aime pas le mot obligation, mais nous donne l'ordre,
le devoir
de protéger la cohésion sociale, de sorte que par nos paroles, nous ne puissions pas apporter préjudice à autrui, dans la réputation d'autrui.
Patrick. Il y a deux choses qui me semblent importantes à souligner et à relever suite à notre discussion. Premièrement, pour le chrétien, et je parle pour le chrétien qui se nourrit de l'enseignement de Jésus, il y a une compréhension qu'on n'arrive pas à l'honnêteté, l'intégrité, la transparence et l'authenticité par nous-mêmes. On doit avoir l'Esprit-Saint qui nous habite, qui aiguise notre conscience et qui nous aide dans une progression et un cheminement vers une vie qui est authentique, où les paroles sont intègres. Il y a cet élément-là. L'autre élément, c'est que tout à l'heure, on a soulevé l'idée de dire on peut mentir et pas faire mal à personne. Mais en fait, quand on parle de cette parole qui donne vie ou cette parole qui donne mort, c'est qu'effectivement, on pourrait mentir et ne pas faire mal à personne, mais une des formes de mensonge qui est problématique pour l'être humain, c'est de se mentir à soi-même et de ne pas être capable de se voir tel que nous sommes. Et dans notre relation avec Jésus, c'est une des choses que Dieu fait pour nous. Il nous aide à nous voir tel que nous sommes pour qu'on puisse progresser dans une amélioration de qui on est avec l'aide de l'Esprit-Saint qui nous habite. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Être vrai devant Dieu, être vrai devant nous-mêmes et être vrai devant notre prochain.
C'est d'être humble aussi. Hein, forcément. Il faut être humble. Il faut vaincre l'orgueil, parce que l'orgueil nous amène au mensonge, l'humilité nous amène à la vérité et à la liberté aussi. On se sent libéré.
Tu parles de liberté, France, et il ne faudrait surtout pas qu'on oublie que ces 10 paroles, ces 10 commandements, comme on dit, ne sont pas en premier lieu des ordres, des devoirs à accomplir parce qu'il faut. mais vraiment des paroles que Dieu veut mettre à l'intérieur de nous pour qu'on soit libre, qu'on puisse l'aimer et qu'on puisse aimer les autres. Ouais. Merci d'avoir rappelé cela. Et ça me fait penser à ce texte sur lequel peut-être on va terminer dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. C'est Jésus qui parle. Évangile selon Jean, chapitre 8, au verset 32, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Mm. » Amen.
Cette neuvième parole vous invite à être libre à travers la vérité. Pas toujours facile dans nos vies.
Non.
On a besoin d'être d'en haut, comme on l'a rappelé. Absolument. Patrick. Et je vais peut-être te demander justement, Patrick, si tu veux bien prier en terminant cette émission pour que cette vérité soit au plus profond de nos cœurs.
Avec plaisir. Prenons un moment d'intériorité pour prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour le simple fait que tu nous acceptes tels que nous sommes, mais tu nous aimes beaucoup trop pour nous laisser ainsi. Tu désires que nous soyons vrais, authentiques, transparents et intègres en toutes choses, entre autres par notre parole. Alors, Seigneur, donne-nous, à l'équipe ici présente, à tous nos auditeurs, auditrices là où ils sont, ton Esprit Saint afin qu'il nous habite et nous aide à devenir honnêtes, à dire la vérité, afin que nous soyons bien dans notre tête, bien dans notre cœur et bien dans notre corps. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, nous te prions au nom du Christ. Amen.
Amen. Amen.
Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8.
Et je retrouve France pour l'offre de la semaine. France, tu nous proposes aujourd'hui un petit livret.
Un petit livret à 5 $ qui inclut les frais de poste. Le titre, c'est « Des mensonges et des misères ». Donc, ça, c'est un petit commentaire biblique de trois personnages. En fait, c'est Jacob, il y a David et il y a aussi Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. C'est des histoires où il y a eu un mensonge
au
départ.
Effectivement.
Et des conséquences malheureuses. Mais il y a quand même un petit peu d'espoir. Donc, dans le commentaire, on voit que Jacob et David, ils ont pu, jusqu'à un certain point...
Il y a une restauration, une forme de restauration.
En passant par l'humilité, la repentance. Et dans le cas d'Ananias et Saphira, malheureusement, non. Mais ça nous fait réfléchir quand on fait la lecture de ce petit livret-là. Donc, des mensonges et des misères à 5 $
Pour pouvoir...
Frais de port inclus.
Continuer à réfléchir sur le sujet d'aujourd'hui. Et puis... Il y a une question, je crois, d'une auditrice aujourd'hui.
Oui, c'est Nathalie de Sherbrooke qui nous écrit et qui nous demande « Est-ce que la Bible répond à toutes les questions existentielles? »
Est-ce que la Bible répond à toutes les questions existentielles? Alors, je ne sais pas à quoi pense Nathalie quand elle dit « questions existentielles ».
Non, ce n'est pas précisé, malheureusement.
Si elle veut dire par là, est-ce que la Bible donne des réponses aux grandes questions existentielles, aux questions, j'allais dire, fondamentales, fondatrices, comme... d'où venons-nous, qui sommes-nous, quel est le sens de l'existence, où allons-nous? Je crois que sans aucun doute, on peut dire à Nathalie, oui, la Bible répond à ces grandes questions fondamentales et existentielles, à commencer par le livre de la Genèse, qui est le livre des fondements, des fondations, et bien sûr jusqu'à l'Apocalypse qui nous dit où nous allons. Maintenant, si Nathalie entend par question existentielle, des questions qui, dans mon existence personnelle, sont importantes et pour lesquelles j'ai besoin de réponses. Là, on peut dire, oui, certainement, la Bible peut nous aider à trouver des réponses, mais ce n'est pas magique.
C'est pas spécifique.
Ce n'est pas j'ouvre ma Bible et puis voilà,
ouais.
Et je trouve
la réponse
à la question, est-ce que je dois me faire vacciner ou pas? Ou quel métier est-ce que je dois exercer?
Ouais.
Y a des grands principes qui vont nous aider. Après, Après, c'est souvent à travers la réflexion, la prière, le partage avec d'autres, oui, qu'on va trouver des réponses à des questions, mm-hmm, spécifiques qui concernent notre existence. Oui. Je ne sais pas à quoi tu pensais, toi, France, pour répondre à Nathalie.
Il y a un ami qui m'a partagé à un moment donné 3 balises. En fait, si ça concorde avec la parole de Dieu...
Ça, c'est la première balise.
La première. La deuxième, si nous avons la paix. Et la troisième, c'est si les circonstances s'y prêtent. C'est comme une façon que Dieu nous répond. Si ce que j'ai à cœur de faire ou si ce qui m'arrive est en accord avec les principes de Dieu, je suis bien avec ça. Et les circonstances sont favorables, donc on va de l'avant. Mais aussitôt qu'il manque une balise sur les 3, à ce moment-là, c'est préférable de pas avancer dans cette direction-là. Si je n'ai pas la paix, malgré le fait que c'est en accord avec la parole de Dieu et que les circonstances sont favorables, on prend le temps. Donc, aussitôt qu'il en manque une, on est plus hésitant, on prie davantage.
Voilà, on veut avoir une forme de conviction, de certitude.
Ouais.
Et peut-être en terminant pour Nathalie, rappeler ce très beau texte du livre des Psaumes, chapitre 119, au verset 105, qui nous dit un petit peu quel est le rôle de la Bible, de la parole de Dieu. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça, c'est la promesse.
Ouais.
Dieu va nous guider.
Pas à pas.
Pas les décisions à notre place. Mmh. Mais il va pouvoir nous guider sur le bon chemin et donner les bonnes réponses.
Ouais.
Merci, France.
Merci,
Nathalie, pour sa question. Et si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, eh bien, voici maintenant comment le faire.
Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515, par Internet, www.ilestecrit.tv. Merci pour votre générosité.
Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, notre émission de la semaine prochaine, qui sera consacrée bien sûr à la 10e et dernière parole du Décalogue. Tu ne convoiteras point. Mais d'ici là, passez une bonne semaine et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».